Bienvenue sur Parents du Multiple, le podcast des parents de jumeaux, triplés ou plus. Je m'appelle Marion, je suis maman de jumeaux et coach parental. Si tu es parent ou futur parent du multiple, alors tu es au bon endroit. Ici, les parents partagent leur expérience de la grossesse à l'adolescence de leur multiple, ainsi que leurs astuces pratiques avec bonne humeur et bienveillance. Tu peux retrouver plus d'informations et tous les épisodes gratuitement sur le site parentsdumultiple.com. Aux Antilles et maman au foyer. Lydie garde ses jumeaux de 3 ans et demi. Je vous laisse écouter cet épisode sur la prématurité. Mais avant de commencer l'épisode, je voudrais partager avec vous un super code promo à valoir sur le site jumeauxshop.com. Avec le code MULTIPLE10, vous pouvez avoir 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique web spécialisée dans l'équipement de naissance pour les jumeaux, triplés ou plus. Bonjour Lydie.
Bonjour Marion.
Comment vas-tu?
Très bien, toi aussi?
Oui, prête à faire ce petit épisode?
C'est parti.
Allez, on y va. Alors on commence avec les questions des parents de multiples. Première question Lydie, l'annonce de la grossesse multiple, pour toi ça a été plutôt un coup de joie ou un coup de flip?
Énorme coup de flip parce que 3 semaines avant, on va dire, le verdict, j'avais déjà eu un rendez-vous avec un gynécologue remplaçant et il nous avait, pour rigoler, bien annoncé qu'il n'y avait qu'un seul bébé. Et 3 semaines après, surprise, il y en a 2.
Oh ah ouais, donc là, t'étais vraiment pas prête, quoi.
Absolument pas. Et pour ça, il faut savoir que nous, on vit à 7000 km de nos familles. Sur une toute petite
t'habites
île où
exactement?
Il n'y a pas de maternité, à Saint-Barthélemy dans les Antilles.
Oui, ok.
C'est vrai. Et l'île est vraiment toute petite, il n'y a pas de maternité, nos familles ne sont pas là, donc là, énorme coup de flip.
Oui, parce que toi, tu avais prévu un, pas deux bébés, quoi.
Non. Donc, pour te dire, le rendez-vous, c'est terminé ou... Plus aucun mot, plus aucun son ne sortait de nos bouches. Et le gynéco nous a regardé, il a dit, écoutez, on se revoit dans 10 jours, je vous laisse accepter la nouvelle. Et on pourra poser toutes les questions nécessaires.
Et toi, qu'est-ce qui te faisait le plus peur quand tu as entendu ça? C'était vraiment le fait d'avoir 2 enfants? C'était toute la gestion, c'est-à-dire l'organisation autour de ça? Qu'est-ce qui t'a déclenché cet énorme coup de flip?
La gestion de me dire mais je vais être toute seule avec 2 bébés, comment on va faire tout seul, pas de maternité, donc il va falloir partir plus longtemps sur l'île voisine, enfin vraiment c'était on va dire toute la gestion.
Toute la logistique quoi.
Ouais.
Ok, donc gros coup de flip, c'était sans appel, tu m'as dit direct coup de flip. Alors, ma deuxième question, la phrase qui tue que l'on t'a dite et qui t'a marqué, donc soit elle t'a énervé, soit elle t'a fait rire, mais en tout cas, tu t'en souviens.
Alors, la pire phrase, je crois que c'est une femme, une inconnue dans la rue qui ne me dit même pas bonjour et qui me regarde et qui me dit « c'est naturel ».
Bonjour, l'intrusion dans la vie privée.
Exactement. Et là, j'ai trouvé ça tellement déplacé, et puis c'est pas le genre de question qu'on va poser à une femme enceinte ou avec un seul enfant. Et j'ai trouvé ça très très déplacé.
Donc toi, ça t'a plutôt énervé?
Complètement.
Et qu'est-ce que tu réponds? Tu réponds ou juste tu ignores?
Là, j'ai ignoré totalement, parce que oui, c'est rentré dans la vie privée des gens.
Ouais. On se connaît pas et tu viens de me demander des trucs super privés. C'est vrai qu'il y a quand même cette barrière qui tombe à chaque fois. Hein. Ça revient souvent, ça. Les gens qui s'autorisent à dire des trucs que, comme tu dis, ils auraient pas dit si c'était une maman qui se promenait avec un seul enfant dans la rue. On n'aurait même pas pensé lui poser des questions si personnelles, quoi.
Mais c'est ça. Ou quand tu te promènes et que tu entends les gens te dire « Quelle horreur !» Mais tu dis pas ça.
Ça revient souvent, c'est vrai que ça revient souvent. J'en rigole, moi, mais c'est vrai que c'est pas drôle. Hein, c'est juste, ouais, les gens viennent vers toi et te parlent et te disent des trucs random et t'es genre là, mais en fait, allô, On est dans la caisse du supermarché, nous ne connaissons pas. Prochaine question, ton meilleur cadeau de naissance ou que toi tu t'es acheté ou que maintenant tu réfléchis et tu te dis c'est absolument ça qui m'aurait bien aidé au début.
Alors là, en cadeau hyper pratique pour nous, ça aura été les porte-bébés parce que quand on a voyagé en avion, c'est hyper pratique.
Du coup, vous aviez deux porte-bébés, c'était des écharpes, c'était quoi? Ou c'était un porte-bébé double? Parce qu'il y a plusieurs modèles.
Non. Oui, c'était un porte-bébé simple, on en avait chacun un, très facile à mettre et comme ça, bah, pour passer les douanes, parce que quand on prend l'avion avec des bébés, c'est quand même très compliqué. Donc,
en plus, souvent, t'abandonnes ta poussette assez loin, quoi.
Mis à part si on a une yo-yo et ça, c'est ce qu'il faut avoir.
C'est vrai. J'ai enregistré un épisode il y a quelques jours avec une maman qui disait qu'elle avait troqué tout de suite sa poussette double contre deux yo-yo et un adaptateur qui transformait sa yo-yo en poussette double. Et c'est vrai, on a tout de suite parlé de voyager en avion et du fait que ça, quand même, ça simplifie la vie. Donc, si vous écoutez ce podcast et que potentiellement vous planifiez de faire pas mal de voyages avec vos jumeaux ou vos triplés, ça peut être la solution. Porte-bébé ou alors des petites yo-yo. C'est aussi pratique.
Ouais, vraiment. Pour le voyage, c'est ce que je conseillerais. Et après, en cadeau coup de cœur, j'ai quand même mon grand-père qui a 80 ans qui a été leur acheter des pyjamas de naissance. Et alors ça, c'était trop mignon parce qu'il n'était jamais rentré dans un magasin comme ça. Et ça, c'est vraiment le coup de cœur.
C'était les pyjamas qu'ils ont mis du coup tout de suite à la naissance ?
Malheureusement, non, parce qu'ils étaient tout petits. Donc, ils les ont mis à 3-4 mois.
Ok, mais à la base, c'était des toutes petites tailles pour ça, mais comme on va parler de la prématurité et que les tiens, du coup, sont nés prématurés, le pyjama de naissance du grand-père a dû attendre, mais c'est vrai que c'est mignon aussi, les petits. Moi, j'avais des petits pyjamas avec leur nom gravé. Alors, à la base, je me dis, ça sert à rien, mignon. Mais c'est quand même les deux seuls que j'ai gardés parce que c'était mignon. Une phrase que tu voudrais dire aux futurs parents de multiples. Donc, s'il n'y avait qu'une seule phrase que tu voudrais leur dire.
Soyez organisés.
C'est sans appel, là aussi. Vous n'avez pas
sans
le choix.
Sans appel, vraiment. C'est okay. Hyper important et ça va vraiment vous aider.
Ouais. Et alors, est-ce que toi, tu as des petites astuces d'organisation ou des trucs que tu as mis en place, toi, qui t'ont vraiment aidé?
Je préparais toutes les doses de biberon, de lait, parce que nous, en plus, on avait des laits avec de l'épaississant, donc il fallait faire des mélanges. Donc, je préparais tout dans des doseurs, juste mes doses de lait. Et comme ça, dès que c'était le moment du biberon, j'avais juste à faire chauffer mon eau et mon mélange était déjà prêt. Et ça, ça nous a aidés, surtout pendant la nuit.
Ouais, préparer les doses de biberon à l'avance. Ça, quand même. Moi, j'y avais même pas pensé. Hein. C'est une amie qui est venue chez moi un jour, qui avait, elle, eu un bébé, m'avait dit « Mais pourquoi tu les prépares pas à l'avance ?» Et je m'étais dit « Ah bah ouais, c'est pas bête. » Et c'est vrai que ça change la vie, quoi.
Complètement.
Et est-ce qu'il y a des choses d'organisation de ta vie à toi, donc pas que tu as fait pour les bébés, mais toi que tu as fait dans ta vie, dans votre quotidien, qui t'ont aidé? Par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais préparer son petit déjeuner le soir pour être sûr de pouvoir se lever, avoir 5 minutes pour prendre son petit déjeuner ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place, toi, qui t'aident au quotidien, qui t'ont aidé au quotidien?
Alors oui, sur les repas, je prenais de l'avance justement pour être sûre de manger et puis manger plutôt bien que grignoter tout le temps.
Donc et c'est-à-dire après, cuisiner à l'avance?
Ouais, je préparais mes plats en avance. Et ce que je me suis autorisée, chose que je faisais jamais, c'était de faire des siestes. Dès que les bébés dormaient, je dormais.
Ouais, c'est vrai qu'on développe un espèce de rythme un peu bizarre. Et en fait, on s'habitue un peu à ce rythme. Si on arrive à dormir en même temps que ses enfants, c'est vrai que notre corps, il s'habitue à ce nouveau rythme où tu dors des phases entre 2 et 4 heures, mais beaucoup plus souvent. J'avais remarqué
ça. C'est ça. Et c'est hyper important, en fait, si on veut garder un peu la forme.
Ouais. Non, mais c'est vrai. Moi, au début, j'avais tendance à dire « Ok, ils dorment, donc je vais faire le ménage, la nourriture, les repas, je vais faire ça, ça, ça. » Et en fait, au bout d'un moment, juste on craque, quoi. On se dit « Bon, ben, ils dorment, ben, je vais dormir aussi. Et tant pis, s'il reste de la vaisselle dans l'évier ou si le sol a plein de poussière, c'est pas très grave, ça attendra. »
Voilà, on apprend le lâcher-prise sur les tâches quotidiennes.
Et ben, ça sera le mot de la fin pour cette première partie. Lâcher prise sur les tâches quotidiennes. Ça fait toujours plaisir à entendre. Comme ça, on sait qu'il faut le faire direct, quoi. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'épisode. Et la deuxième partie, on va parler justement de la prématurité. Parce que toi, Lydie, tu as mentionné déjà rapidement que tes enfants étaient nés de manière prématurée. Et la prématurité, c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup de familles de multiples. Donc, Lydie, je te laisse nous raconter ton histoire.
Alors, donc moi, je suis maman de deux petits garçons qui sont nés à 33 semaines. Donc, on n'est pas dans la très grande prématurité, mais ils avaient un retard de croissance et ils faisaient 1,3 kg chacun. Et comme je l'ai spécifié un petit peu avant, moi, j'ai dû rentrer en France pour accoucher, pour avoir un meilleur suivi, parce qu'il n'y avait pas de maternité là où je vis. Donc, le papa faisait des allers-retours en avion. Et à 33 semaines, on a décidé de me déclencher pour que les enfants naissent. Donc, ils sont nés. Et alors là, c'est enchaîné toute une partie inconnue, loin de la normalité quand on devient parent.
Et est-ce que toi, Lydie, pardon, je crois qu'on a un petit décalage, donc j'ai l'impression de te couper tout le temps. Mais est-ce que toi, du coup, avant de plonger dans la prématurité, tu savais ce que c'était, on t'en avait parlé, on t'avait montré peut-être, je ne sais pas, un service de néonat, ou est-ce que tout était tout nouveau pour toi?
Je connaissais rien en prématurité. Pour moi, c'est enfant dans une couveuse et ça s'arrête là. Tout ce qui est à côté, j'en avais jamais entendu parler. Donc, j'ai découvert.
Ok. Donc, tu découvres tout à ce moment-là, quoi. En plus d'avoir eu tes enfants, les émotions, la fatigue, etc., là, tu dois t'adapter à ce nouveau monde de la prématurité, ce nouveau monde inconnu, quoi.
Oui, c'est ça. Et donc, mes enfants sont nés. La rencontre avec mes enfants se fait avec eux dans une salle de réanimation. Donc, on ne peut pas prendre notre bébé comme on veut dans les bras. Il est branché à des capteurs, il a une sonde, il est dans une couveuse. Donc, c'est une petite main sur son ventre et voilà comment se fait la rencontre. Et nous, comme c'était des jumeaux, en plus, ils n'étaient pas dans le même bloc de réanimation. Ils étaient dans deux pièces différentes. Donc, c'était très, très compliqué. Il fallait se séparer. Enfin, une rencontre difficile.
Comment ça se fait qu'ils n'étaient pas dans la même pièce? C'était juste parce qu'il n'y avait que la place que pour un bébé ou il y avait d'autres bébés et les lits étaient déjà pris ou...
En fait, dans l'hôpital où on était, il y avait deux blocs de réanimation de 7 bébés. Et nous, au moment où ils sont arrivés, il restait une place dans chaque bloc.
Oh
donc,
non.
Ça s'est fait comme okay. Ça. Alors...
Histoire de vous compliquer encore un peu plus la vie, quoi.
C'est ça. Et donc, voilà, pour le premier câlin avec nos enfants, il faut attendre 2 jours qu'on s'organise, que les infirmières soient prêtes pour les sortir de leur couveuse, qu'on les installe sur le père ou sur la mère. Tout est très compliqué. On ne peut pas leur donner de biberon, ils ont une sonde. Donc, on n'a pas du tout ce côté... après, j'ai eu que mes jumeaux, mais ce côté câlin qu'on peut imaginer avec un enfant.
Oui, le côté cocon, on est là, au calme, et on a le bébé dans les bras. On est... ouais. J'imagine que ça bibe de tous les côtés, qu'il y a d'autres parents, que c'est un peu la cohue.
On est dans un bloc de réanimation, donc oui, t'as tous les bips des machines, t'as des urgences, donc des fois t'as des bébés qui font des bradycardies ou autres, et t'as tous les médecins qui arrivent, on te demande de sortir en urgence, donc c'est vraiment très compliqué. Par chance, on n'est resté que 4 jours en réanimation.
Ok, et après vous partez où du coup? Vous sortez de l'hôpital ou vous allez dans un nouveau service?
Alors, on part de l'hôpital pour aller dans un autre hôpital où il y avait de la place en néonat. Donc, on fait un transfert en ambulance médicalisée pour les bébés d'1h30.
Ok.
Et après, on arrive en néonat dans un plus petit hôpital où il y a de la place et où là, les enfants sont remis tous les deux dans la même couveuse.
Ok. Et donc, du coup, là, vous êtes dans une... ils ont leur propre chambre et vous pouvez rester ou c'est pareil, il y a plusieurs couveuses, plusieurs parents?
Quand on arrive, on est dans une salle commune et dès le lendemain, on a de la chance, il y a une chambre qui se libère. Donc là, on retrouve, on va dire, une petite intimité du papa, de la maman et des enfants.
Donc là, vous êtes tous les quatre et vous pouvez commencer à faire votre rencontre, du pot à pot, ce genre de choses qu'on ferait dans une naissance, entre guillemets, qui se passe bien, une naissance plus normale, ou ça reste très médicalisé?
Voilà, donc C'est très médicalisé. Ils sont encore dans une couveuse, ils sont encore branchés aux machines avec leurs capteurs, avec leurs sondes. Donc, pareil, chaque pot à pot prend du temps, il faut s'organiser, il faut qu'il y ait les infirmières qui viennent les poser sur nous. Donc, au début, c'est encore compliqué. Mais plus on passe de temps en néonat, plus on sait faire et petit à petit, on peut même s'installer tout seul sans l'aide des infirmières, malgré tout cet à côté.
Des petites victoires au quotidien, quoi. Et du coup, vous restez combien de temps dans ce nouveau service?
On reste 2 mois.
Ah oui, quand même.
Donc,
Et vous faites quoi? Pardon, je te laisse continuer.
On profite, on va dire, la chance qu'on a. Du coup, c'est on profite de faire plein de câlins, de peau à peau avec nos enfants. Comme on n'est pas à la maison, qu'on est à l'hôpital, on n'a que ça à faire.
Parce qu'en tant que parent, vous êtes aussi nourri, vous pouvez dormir sur place, etc. Vous êtes vraiment installé à l'hôpital, quoi.
Alors, on a une petite cuisine pour les parents, justement, et après, on peut dormir dans la chambre. Alors, on l'a un peu fait, mais clairement, on ne dort pas parce qu'on reste dans un lit d'hôpital. Le papa dort sur les lits des pliants. Et puis, on a toutes les machines qui bipent toute la nuit, on a tout le bruit d'un hôpital. Donc, clairement, ce n'est pas reposant du tout.
Et donc toi, ce qui te tenait vraiment à cœur, Lydie, c'était de parler parce que souvent on parle de la prématurité d'un côté un petit peu pas triste, mais voilà, un petit peu compliqué, etc. Et toi, dans cet épisode, tu voulais vraiment parler de comment essayer de positiver cette expérience-là de la prématurité. Alors, est-ce que tu aurais des astuces à partager pour les parents qui, comme toi, vont vivre ou sont en train de vivre peut-être l'expérience de la prématurité avec leurs multiples.
Alors, ce qui va paraître très bizarre, et c'est mon conjoint qui m'avait poussé à le faire, à me dire, on rentre à la maison, on va dormir, nos enfants ont les meilleurs nounous du monde. Donc, il fallait pas que je culpabilise à les laisser, parce que nous, on allait être très fatigués, dormir dans un hôpital, c'est fatigant, donc apprendre à les laisser. Donc, on a eu cet avantage par rapport à d'autres parents qui sont dans leur maison avec leurs enfants, nous, de pouvoir faire des nuits complètes.
Et ça, c'est chouette quand même. Donc, du coup, vous avez fait un point d'honneur à rentrer chez vous et dormir dans votre lit tous les soirs.
Alors,
Même
pas
si
tous
c'était
les
difficile,
soirs,
j'imagine. Ok.
mais plusieurs fois par semaine.
Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres, entre guillemets, pas avantages, mais voilà, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, à avoir ces bébés, voilà, ils sont à l'hôpital, de toute façon, quelqu'un s'en occupe, comme tu dis, ils ont les meilleurs nounous du monde. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez fait, toi et ton conjoint, pour continuer, pas dramatiser cette période et se dire, ok, voilà, c'est comme ça, maintenant on continue à profiter et on fait d'autres choses à côté?
Alors, il y a plein d'avantages aujourd'hui quand j'y repense. C'est que quand nos bébés ils font les coliques, nous on a les infirmières qui sont juste à côté, donc qui viennent prendre le temps de nous montrer comment faire des massages, de nous expliquer. Dès qu'on a une question, nous on a une personne qui est là présente pour nous répondre. Donc c'est une chance incroyable.
Et est-ce que vous avez continué à vivre un petit peu votre vie à côté, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être continuer à avoir des amis, se faire un ciné, enfin voilà, essayer d'avoir une vie la plus normale possible sur le côté?
Alors nous, c'était encore particulier hein, parce que j'étais retournée vivre chez mes parents, du coup, comme j'étais en France. Mais avec mon conjoint, on en a profité, voilà, pour aller manger au restaurant, pour pouvoir aller faire les magasins ensemble, d'acheter tout ce qu'on avait besoin et qu'on n'avait pas encore. Donc oui, on a pu profiter de ces moments-là.
Et au final, du coup, vous êtes resté. Donc, si on prend au total, vous êtes rentré à la maison. Tes jumeaux, ils avaient quel âge?
Quand on est vraiment rentré chez nous sur notre île, les garçons avaient 3 mois et demi.
Et là, ça se passe comment entre passer de ce monde hyper médicalisé où, comme tu disais, tu pouvais rentrer chez toi dormir et dormir une nuit complète si tu le voulais, tu pouvais avoir l'aide des infirmières, elles pouvaient t'expliquer tout ce que tu leur demandais, etc. Et basculer dans ce monde à la maison. Comment ça se passe la transition du retour à la maison?
Alors, encore une chance d'être restée longtemps en néonat, c'est que nos enfants, ils sont réglés. En néonat, les biberons, ils sont à heure fixe, toutes ces choses-là. Donc déjà, quand on est rentré à la maison, on avait de la chance d'avoir des bébés qui étaient réglés. Donc ça, c'est génial.
Du coup, plein de points positifs au final. Outre l'aspect médical qui est pas sympa et le stress que ça engendre. Donc, tu arrives à la maison, tes bébés sont réglés, toi, tu es reposée, entre guillemets, parce que tu as eu le temps de faire tes nuits. Est-ce que, du coup, prendre le relais 24 heures sur 24, ça coule de source ou du coup, c'est difficile parce qu'on s'est habitué à un autre univers où on a beaucoup d'aide?
Alors, il y a le côté où on est très content, où on est enfin parents chez nous, dans notre maison, notre vie de famille commence, donc il y a toute cette euphorie, et nos enfants sont réglés, donc du coup, ça coule vraiment, ça roule vraiment bien. Franchement, moi, j'ai eu énormément de chance là-dessus.
Donc, en fait, tu m'as presque vendu la prématurité, là, Lydie. Donc, tu rentres chez toi, t'es reposée, tes enfants, t'as pu poser toutes les questions du monde, t'as pu peut-être t'entraîner. Je ne sais pas si à l'hôpital, t'as l'occasion de donner le bain, de t'entraîner, de demander comment faire, etc. Et c'est un peu comme si t'avais suivi un mini-stage avec les meilleurs nounous du monde, comme tu dis, et les infirmières. Et tu rentres chez toi, au final, et c'est assez facile. T'as toutes les compétences que t'as acquises. De ton séjour en prématurité. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire aux parents qui se préparent à peut-être vivre la prématurité ou qui sont en train de la vivre? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment avant, pendant que tu étais enceinte? Est-ce que tu aurais souhaité peut-être, je ne sais pas, te renseigner plus ou quelque chose que tu aurais fait différemment quand tu étais à l'hôpital au service de néonat avec tes enfants?
Alors c'est vrai que j'aurais peut-être aimé voir comment était une salle de un service de néonat, parce que c'est vrai que c'est la découverte totale. Je dirais aux parents de ne pas hésiter à poser toutes les questions qui leur passent par la tête, parce que ça va être un moment certes très compliqué moralement. On n'est pas dans la normalité d'être à l'hôpital pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois avec nos bébés. Mais profiter, faut essayer de voir le bon côté des choses. Notre enfant, voilà, il est entre de bonnes mains et du coup, nous, ça va nous apprendre plein de petites choses que si on était resté que quelques jours en maternité.
Donc aujourd'hui, si tu regardes ton parcours, ta grossesse, ton accouchement et c'est ce moment en néonat, ce que moi j'en retiens à t'entendre parler, c'est vraiment une expérience qui était plutôt positive. Est plutôt enrichissante et t'en as profité au maximum plutôt que de te dire toutes les 5 minutes, oh là là, on est dans cette situation, c'est horrible.
Sur le moment, vraiment, moi, j'avais vraiment du mal à l'accepter et plus les jours passaient, et mon conjoint vraiment me poussait à me dire, écoute, on a de la chance, nos enfants vont bien, ils sont en bonne santé, ils ont juste besoin de rester à l'hôpital. Alors certes, il y a des hauts, il y a des bas, mais... aujourd'hui, quand on voit comment ils vont, c'était une expérience particulière, mais où on a appris énormément de choses.
Donc du coup, ça va peut-être aider les parents ou les futurs parents qui écoutent cet épisode et qui sont peut-être un peu stressés voilà, du risque qui est quand même assez élevé de finir en néonat quand on est enceinte de jumeaux, de triplés ou de quadruplés. Vraiment, ce que je retiens, moi, de ton récit, Lydie, c'est essayer de profiter de cette période et se dire, OK, de toute façon, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Ils ont juste besoin d'un peu de temps, ce temps qui, au final, ils n'ont pas eu dans le ventre. Ils ont besoin de l'avoir peut-être en couveuse. Et nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on fait de cette période de temps-là? Toi, donc, tu en as profité pour dormir, pour poser un maximum de questions, pour te renseigner, pour prendre du temps en couple aussi, parce qu'après, c'est vrai que quand on rentre à la maison, on n'en a pas forcément. Et comme tu dis, tes bébés sont sortis, vous êtes rentrés chez toi au bout de 3 mois et ils étaient réglés et au final, c'était plutôt facile. Donc, ce message d'espoir, Lydie, que tu nous donnes aujourd'hui, je t'en remercie parce que je pense qu'il y a pas mal de parents qui ont peut-être la tête dans le guidon et ils ne sont pas capables aujourd'hui, s'ils sont néonates en ce moment, de voir cet avantage-là, entre guillemets. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à partager avec peut-être les parents qui sont aujourd'hui en néonates en ce moment même?
Je leur souhaite beaucoup de courage, hein, parce que malgré tout ça, c'est très dur, beaucoup de courage, qu'ils n'hésitent pas à en parler. Alors, on peut être suivi par une psychologue aussi en néonat, et qu'ils n'hésitent pas à parler et à dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, parce que c'est une épreuve, c'est une très très grande épreuve. Mais faites confiance à vos bébés, c'est des vrais warriors.
Eh ben merci beaucoup Lydie d'avoir pris le temps de partager ton histoire et de nous donner un petit peu ce côté positif entre guillemets de la prématurité. Et comme tu dis, profitez à fond et ensuite les bébés, normalement, tout va bien se passer et le retour à la maison se passera aussi paisiblement. Merci Lydie.
Merci à toi.
Merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui laisser des petites étoiles. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode des Parents de Multiples.